L'ancien chirurgien est actuellement jugé à Vannes pour des viols et agressions sexuelles sur près de 300 patients. Il les a reconnus dans leur intégralité hier.
Merci Cécile Mérieux.
RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
En présence de Sophie de Ravinel, journaliste à Public Sénat, et d'Antoine Assaf, philosophe, écrivain, vous avez une adresse pour participer, direct@rcf.fr ou direct@radionotredame.com. Olivier nous dit que comparer les Russes de Waterloo avec Poutine me paraît abusif. C'est vous qui avez fait ça, Antoine, non ?
Non, je disais que les Russes ne sont entrés en France, à Paris, qu'après la Waterloo, quand ils sont été, enfin, on a appelé les bistrots à cause d'eux, et que finalement, l'empereur... Et l'empereur Alexandre était d'une très grande noblesse à l'égard des Français. Il n'y a pas eu d'occupation. Et je ne crois pas que la Russie a l'intention d'envahir l'Europe. Et il y a ces États, bien sûr, d'en parler Sophie de Ravinel, bien sûr qu'il est temps de nouveau, Moldavie, Géorgie, tout cela, ils essayent peut-être, comme en Biélorussie, de faire élire un président pro-russe. Et c'est ce qui se passera aux élections après Zelensky. C'est ce que Trump veut, une élection, et Poutine l'aura. Une élection, et peut-être gagnera de nouveau quelqu'un pro-russe qui finira par négocier toute cette partie de Donbass de 20%. Mais je ne dis pas que... Si, si, il faut comparer.
Vous pensez que ça n'ira pas au-delà, et on verra bien sûr ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, ce manuel de survie est une forme d'anticipation sur un chaos possible, et comme l'a rappelé Sophie de Ravinel, qui peut s'adresser à toutes sortes de champs dans la société, que ce soit des accidents industriels, écologiques ou des guerres civiles. Sur la question, puisqu'on est quand même dans un état d'esprit qui nous porte à ce genre de considération, une majorité de Français se dit globalement favorable au rétablissement du service militaire, 86%, et même au service obligatoire. Alors, la proportion est moindre, 53%, c'est un sondage Ipsos pour l'école d'ingénieurs CESI qui est apparu récemment et qui nous dit, ça a été publié par Le Parisien, plusieurs pays européens s'interrogent sur la conscription obligatoire ou non et l'augmentation de la réserve pour renforcer leur défense. Que peut-on ajouter sur cette question ?
Eh bien, que personne ne veut du service militaire, mais que la réserve est une bonne idée. Voilà. C'est-à-dire que le service militaire, la conscription, telle qu'on la connaissait dans nos casernes avant les années 2000, eh bien, voilà, c'est terminé. Après, il n'y a pas eu de mobilisation générale depuis 1939 en France, mais en revanche, ce qui peut fonctionner, c'est effectivement la réserve. Et la réserve, elle a un lien avec ce kit de survie, parce qu'elle est là aussi, le kit de survie dont nous parlions précédemment, parce qu'elle est là pour mobiliser les esprits et essayer de participer à la reconstruction de ce fameux lien État-nation. Cette réserve, elle avait été appelée déjà par Sébastien Lecornu en 2022. Il y avait eu la une d'un titre du Figaro, parce que c'était au moment du début de la guerre lancée par les Russes contre l'Ukraine. Mais Emmanuel Macron, le 5 mars, je crois, hein, quand il a parlé à 20h aux Français, il a lancé de nouveau un appel solennel à la réserve. La réserve, ils veulent la doubler, passer à peu près de 45 000, ce qu'elle est actuellement, à 100 000 à peu près, sachant qu'il y a, que c'est assez conséquent comme nombre par rapport au nombre de militaires dans nos armées en France.
Maintenant, les réservistes sont-ils suffisamment préparés ?
Alors, c'est la question, parce qu'en fait, il semblerait qu'il y a eu une très très bonne réponse, très positive, à l'appel d'Emmanuel Macron, et que maintenant il s'agit de les former et de les encadrer. Et ça demande du temps et de l'argent, et on espère qu'ils l'auront.
Sachant que les armées font un usage très différent de leurs réservistes. Hein. La marine n'utilise pas du tout les réservistes, par exemple, comme l'armée de terre. Ce ne sont pas les mêmes besoins. Il y a une technicité, par exemple, sur les bateaux qui tranche avec la culture de groupe qu'il y a davantage dans les armées terrestres.
Bah, je suis de la réserve de la marine depuis les HEDN. J'ai été activé. Et toi aussi. Et donc, c'est sur les bateaux, j'avais ma fonction d'analyste, de conseiller politique, et avec l'état-major, avec la puis il y avait le technicien, il y avait le QE, c'est la forme d'équipage. Mais ce que je souhaite dire sur le service militaire, quand on l'a, on se sent prêt à se défendre. Si on ne l'a pas, on reste dans une sorte d'abstraction. C'est pourquoi l'Amérique a instauré le deuxième amendement. Le deuxième amendement date, c'est un pays qui, en cas d'être envahi par les Chinois, tout le monde doit être armé, avoir son arme et résister. Ce qui n'est pas le cas en France. Je connais un amiral qui a fait un contrôle de sécurité dans le milieu même d'état-major. Beaucoup ont perdu ce rapport à l'arme, à la défense. Ils sont en train de rééduquer. C'est pourquoi il faut, sans voter pour un deuxième amendement comme aux États-Unis, qui est celui qui passe pour être celui de la droite, etc., eh ben, on peut quand même réinstaurer, non pas un service militaire, il ne faut pas oublier, la France n'a plus la possibilité de l'organiser. Les casernes ont beaucoup fermé, et l'armée n'a plus cette possibilité. Donc, il peut y avoir des services militaires selon les spécialités, parce que nous allons vers une guerre de plus en plus abstraite. Les drones, les cybersécurités, les ordinateurs, les robots, on ne peut pas dire que c'est le nombre. Il n'y a que les peuples de l'Est, les Ukrainiens et les Russes, qui sont des cousins germains, tous ceux que j'ai eus comme élèves à Kiev, moi, quand je les voyais, étaient de parents mixtes, qui sont capables de donner 600 000 morts. Vous imaginez tout ce qu'ils ont donné comme morts, comme s'ils étaient à la Première Guerre mondiale.
Vous faites écho, Antoine, à ce que nous dit Claudine, qui nous dit « Permettez-moi, à propos de la fidélité historique aux États-Unis, de ne pas oublier l'armée rouge, sans l'aide de laquelle il n'y aurait plus eu un juif vivant en Europe. »
Et c'est une chose qu'il faut rappeler, qu'il n'y aurait pas eu de débarquement en Normandie, et Roosevelt l'a reconnu, s'il n'y a pas eu la victoire de Stalingrad.
Mais qu'est-ce qu'il faut
en
déduire
pour aujourd'hui ? Ce sont les Américains qui ont aidé les Russes à être armés pour Stalingrad. Donc, il fallait, depuis le début, créer une psychologie avec ce jeune du KGB qui sort de Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire une mentalité plus européenne qu'à Moscou, créer une sorte d'Eurasie. Pourquoi Trump, et là je le pose à Sophie Dravinel pour la provoquer, pourquoi Trump irait profiter de toutes les richesses, les terres rares des pays de l'Est, l'Ukraine et même la Russie, il y a des accords avec eux, et s'ouvre à Trump avec un dialogue et non pas l'Europe. Pourquoi faire de Poutine un ennemi ? C'est ça la grande erreur. Et ça nous pousse à créer des hystéries, des trucs.
Réponse de Sophie Dravinel.
Parce que je crois que Vladimir Poutine, mais on a aussi le droit de ne pas accepter les duels. Celui-ci nous porterait loin, cher Antoine. Mais je crois que Vladimir Poutine a manifesté largement depuis quelques années sa nocivité.
Il a tout simplement critiqué les accords de Minsk. Il a critiqué qu'après la chute du mur de Berlin et la politique de la perestroïka de Gorbatchev, la NATO, l'Europe n'ont pas respecté et l'OTAN n'ont pas respecté ce refus d'élargissement.
En tout cas, moi, je conseille
c'est
à nos auditeurs.
C'est sa phrase qui dit nous sommes à 10 minutes de Moscou.
Je conseille à nos auditeurs un livre absolument extraordinaire qui de Giovanni Laampoli sur les ingénieurs du chaos et qui, pour moi, explique très bien la situation dans laquelle nous sommes, sinon les mages du Kremlin du même auteur.
Et quelle est sa thèse ?
Les mages du Kremlin, très bien. Hein.
Ouais, les mages du Kremlin, d'accord. Très bien.
Le mage du Kremlin.
Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette question, cher lui, mais puisque nous sommes en train de parler de la défense européenne, je crois qu'on ne peut pas créer un peuple par la psychose. La preuve, pour ne pas aller loin, quand Périclès a gagné contre les Perses, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, au temps de Socrate à Athènes. Il a voulu créer l'alliance des cités grecques tout autour de lui. Il a dit « Je veux battre Sparte ». Et c'est là où Socrate lui dit « Nous ne sommes pas d'accord, ce sont des Athéniens ». Il a perdu contre Sparte. Pour quelle raison ? Parce que Sparte, c'était des enfants combattants, des jeunes qui vivaient pour se défendre. Ils ont gagné. Est-ce que nous pouvons créer une Sparte ? C'est cela qu'il faut. Et si vous voulez créer une Sparte, faites-le, nous serons toujours prêts. Mais il faut avoir des Périclès en face.
En tout cas, pour l'instant, ce sondage existe. On verra ce qu'il en advient, ce qu'il advient de cette question de la conscription. Je vous propose à présent de parler, puisqu'on citait le lien État-Nation tout à l'heure. Eh bien, il y a peut-être une transition toute trouvée avec le Forum Viva qui se tient ce week-end à Paris, au Parc Floral, 17 associations familiales. Alors, ce n'est pas officiellement catholique, mais ce sont des associations de la cathosphère, si je puis dire, qui se réunissent pour la première fois pour offrir une réponse au délitement social, justement. C'est ça le but, hein. Il y a une tribune d'ailleurs dans Aletheia qui en parle. Réponse au délitement social, il n'y a pas de fatalité à ce délitement. Le lien État-Nation ne passe pas que par l'armée, il passe aussi donc par la famille, qui est peut-être un élément trop négligé. Sophie Dravinel, Antoine Assaf.
Alors évidemment, je pense que dans des temps compliqués comme ceux que nous traversons, la cellule familiale est une source de jouvence et doit être en tout cas entourée comme telle. On voit à quel point dans les instituts de sondage, les inquiétudes qui étreignent les Français porte principalement, non pas tant sur la sécurité que sur le chômage, que sur le pouvoir d'achat et donc sur des préoccupations qui touchent cette cellule familiale. C'est évidemment le plus proche prochain, c'est celui dont on a la garde ou celui dont on dépend. Et je crois effectivement que nos responsables politiques devraient, s'ils ne l'ont pas, avoir plus conscience encore de l'importance de ce champ familial. Évidemment qu'on le voit aussi dans les matières d'éducation, dans les matières... On voit la préoccupation des parents et elle ressort de toutes les études. Et donc tout ce qui pourra être fait pour entourer cette cellule familiale et lui permettre de s'épanouir, pour permettre aux enfants, parce que Antoine Assaf parlait de Sparte et de tout ce qui a pu, par le passé, contribuer à la construction d'une nation forte, quelle que soit l'avis qu'on puisse porter sur les méthodes, eh bien je pense qu'effectivement c'est la toute petite enfance qui compte en priorité. Et cette toute petite enfance, c'est autant le cadre de l'éducation nationale que celui de la famille.
Antoine Assaf.
Moi, que voulez-vous ? C'est l'oriental qui va parler, et la famille que j'ai connue en Orient a gardé, bien sûr, dans son... Je suis triste qu'on ait perdu cette analogie de la famille humaine avec la famille divine. C'est-à-dire, quand Noël arrive au Liban, partout, on sait très bien que si nous sommes pères, c'est par analogie à la paternité divine. Si nous sommes mères, c'est par analogie à la maternité divine. Si nous sommes fils... aussi par analogie à la paternité divine, et l'action qu'on doit porter dans le monde, c'est celle du Saint-Esprit. La séparation de l'Église et de l'État, je comprends Saint Pie X quand il va dire « véhémenter », il commence son... C'est avec véhémence que je la condamne, parce qu'elle crée des schizophrènes. Aujourd'hui, on est au-delà de la séparation de l'Église et de l'État, on est dans une laïcité qui veut devenir une religion. Un sénateur qui, l'autre jour, cite l'évangile de Saint-Luc, il a été hué. Il faut savoir que cette parole qui nous a été donnée, elle ne peut pas être séparée. Le Parthénon, puisque j'ai parlé de Périclès, qui l'a construit, c'était pour mettre une statue de 69 mètres d'Athéna. C'est la tour de Notre-Dame. Ils avaient une religiosité, et quand Fustel de Coulanges, ce pauvre prof d'histoire de Strasbourg, arrive et écrit son livre, La cité antique, il n'a gardé qu'une thèse. Il a dit, si la société et la famille n'a pas de fondement religieux, c'est-à-dire qu'elle, certes, comme on appelle aujourd'hui de peur de dire Dieu, c'est-à-dire la dimension de la transcendance, eh bien cette société va devenir banale et se faire détruire et disparaître.
Cher
Il
Antoine,
faut le fondement religieux.
Donc les manuels de survie ne servent pas à grand-chose si jamais on n'a pas un socle qui tient la route. C'est ça
aujourd'hui,
que vous dites,
la famille,
fait,
hein. Je leur souhaite bonne chance aux organisateurs, je les admire, ils ont beaucoup d'énergie, ils donnent beaucoup d'eux-mêmes, mais je souhaite qu'il y ait parmi leurs intervenants des gens qui osent dire pas de famille humaine sans paradigme avec la famille divine.
Sophie de Ravinel.
Écoutez, je pense...
Et qu'importe pour ceux qui ne croient pas, qui nous suivent.
Voilà, ça c'est un propos... oui, mais
Modéré.
Oui, c'est ça, modéré. Moi, ce que je pense, je me dis que la foi dans les familles structure ces familles. Et ceux qui ont la chance d'avoir la foi sont effectivement portés par quelque chose de transcendant qui les porte au travers des épreuves, qui les aide sans doute et qui les aide à être des soutiens, des piliers pour ceux qui n'ont pas... ce soutien spirituel et tout ce qui peut contribuer à participer à ce soutien doit être évidemment soutenu. Moi, ce que je pense aussi, là non plus, je ne vais pas rentrer dans ce duel sur la laïcité parce que vous savez très bien que nous aurons des idées radicalement différentes. Ce que je pense, moi, c'est que si le cléricalisme des églises n'avait pas tellement miné nos sociétés, nous serions sans doute aujourd'hui dans un meilleur état.
Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Qui a dit cette phrase, cher Ludo Frenne ? Je ne vais pas faire passer un oral à Sophie. Elle était déjà la plus brillante. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Qui a dit
voilà.
ça ? Il
mais
dort
donc
au
vous
Panthéon.
Parlez de société idéale, voilà.
Non, mais je n'approuve pas cette phrase. Je dis qu'il y a eu un délire. Et ce Gambetta qui dort entouré de bougies, pas loin de Voltaire, a commis l'erreur de ne pas comprendre ce qui s'est passé en France. Et je dis qu'aujourd'hui, notre Église, l'Église catholique, telle qu'elle agit avec la famille, c'est tout ce qu'il faut faire. Elle baptise les enfants, elle ne les laisse pas mourir sauvagement. Elle confirme, Elle donne la première communion, c'est-à-dire une nourriture, comme dit Thérèse d'Avila, presque miraculeuse, une petite hostia. Il n'y a pas le menu auvergnat dans tout ça, le Christ qu'il nous laisse. Et après, on forme spirituellement vers les études, éclairées, vers une morale qui retient au moins ce que tous les païens ne peuvent pas rejeter, les 10 commandements.
On voit
si
ce
vous
que,
rejetez les 10 commandements,
on voit ce que ce cléricalisme a donné au Liban,
de toutes
Antoine
les constitutions.
Et je pense
alors,
pas.
Je termine.
Allez-y, Antoine.
Et après cela, elle nous prépare à un mariage où elle dit « Soyez fidèles, élevez vos enfants » et elle nous enterre dans l'espérance d'une résurrection. Je ne vois pas d'autres possibilités pour former en société que celle-là. Et si ceux qui ne croient pas n'en veulent
pas,
il leur reste
Liban,
la mode
Antoine
sauvage. Païen, c'est-à-dire on tue les enfants s'ils sont handicapés, etc. On revient au paganisme. Pardon Sophie, je vous écoute.
Donc c'est non, paganisme non, contre cléricalisme.
Non, mais pas du tout. Sophie. Mais bon, le débat est beaucoup trop long, mais on voit ce que la mise en silo des confessions religieuses a donné au Liban, et on peut espérer qu'en France, la laïcité permette d'éviter justement ces clivages qui ne vont que s'accentuant en France. On voit ce que ça donne du point de vue politique aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire de dessin sur la façon dont la polarisation de notre société est en train de se faire, et je pense qu'on a besoin de tout, sauf de rajouter du religieux dans la sphère publique aujourd'hui. Et je crois qu'on a largement assez, et que si les cellules familiales peuvent se nourrir de leur foi dans leur intimité familiale, quitte à le vivre à l'extérieur pour le donner aux autres dans cette intimité de la foi, je pense que c'est remarquable.
Dans une époque marquée par l'individualisme et la fragilisation des liens sociaux, nous dit le Forum Viva, la famille apparaît plus que jamais comme un repère essentiel. Là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord, mais la
Absolument.
Question, c'est de... C'est
plutôt, quelle famille.
Pour conclure sur le sujet, c'est plutôt de savoir quel discours on tient autour de ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de discours qui soit tenu sur la famille en tant que telle, non ?
Bravo, cher Louis, vous avez compris, on a peur du contenu, en d'autres termes, on a peur de la vérité. Et c'est pourquoi Gomdinich en crée une illusion dans l'art pour ne pas la regarder en face. Je suis d'accord quand Sophie de Ravinel parle d'une laïcité. Peut-être ça manque à des pays comme le Liban qui est très communautaire. N'empêche, Dieu est toujours présent sur sa terre. C'est une terre sainte. Donc, elle est sainte, elle va créer des divisions. Depuis sa crucifixion, il a divisé le monde. Et c'est lui qui a annoncé cette guerre qui n'a rien à voir avec celle de Poutine, ni la première, ni la deuxième, la vraie guerre spirituelle. Qui suis-je ? Et à partir de là, toute l'humanité tourne autour de lui, autour de ce même soleil. Et les laïcs doivent savoir que la notion de laïcité vient de l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui l'a définie dans la doctrine sociale. Donc, elle a enseigné à l'humanité, elle a enseigné à tous les philosophes les Lumières qui l'ont un peu rejeté, comment réfléchir. Ce sont les manuscrits du Vatican qui, aujourd'hui, nous donnent les sources de notre savoir, des humanités, de tout ce que nous avons gardé de Platon et d'Aristote. Donc, l'Église, en accueillant même les Vandales au temps du sac de Rome, elle a accueilli les Vandales, elle les a protégés, elle n'a pas rasé la culture. Au contraire, elle a essayé avec Augustin et Thomas de les valoriser. Et c'est ça la vraie laïcité, c'est-à-dire on prend un être humain, on essaye de voir comment, humainement parlant, dans sa temporalité, il peut accéder à sa vraie origine spirituelle pour qu'il ne sombre pas dans la sécheresse, parce que notre racine est spirituelle.
Ne pas sombrer dans la sécheresse. La famille nous y aide aussi, pour peu évidemment que
Absolument.
Celle-ci soit vivace et qu'elle puisse exister, s'épanouir. On va parler à présent de Boualem Sansal. C'est le dernier sujet que je vous propose ce matin et que je livre à votre sagacité, puisque l'actualité a quelque peu rebondi sur le sort de l'écrivain qui aujourd'hui est toujours détenu. Non seulement il est détenu, mais le parquet algérien a requis 10 ans de prison ferme à son encontre. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie, dont le cas, celui de Boualem Sansal, donc, a envenimé les tensions déjà fortes entre Alger et Paris. La question, c'est de savoir aujourd'hui que faire par rapport à ce réquisitoire. Emmanuel Macron a dit jeudi vouloir souhaiter une issue rapide pour que l'écrivain puisse retrouver sa liberté, Sophie Dravinel.
Oui, absolument. Cette folie de condamnation à 10 ans est un arrêt de mort. Ça a été dit comme tel et Emmanuel Macron a réagi très vivement en dénonçant et en appelant le président algérien à être raisonnable et à revenir, à faire retomber cette tension diplomatique absolument incroyable qui a pris, qui va bien au-delà du cas de ce pauvre Boualem Sansal, qui évidemment est un prisonnier politique, est un otage de cet État. Moi, je pense un otage d'État. Enfin, il n'y a pas d'autre mot à avoir. Nous avons d'autres compatriotes prisonniers, je pense, en tout cas otages d'État, notamment en Iran, qui méritent eux aussi de sortir des geôles iraniennes, un couple qui, je crois, reste encore prisonnier là-bas. Il y a, même s'il y a des mouvements récents, il y a eu des Français libérés. Mais le cas de Boualem Sansal est extrêmement différent, évidemment, parce qu'il était écrivain, connu, qu'il incarnait une position politique. Et que, voilà, il est, un bâton de tension, un outil, je ne sais pas, le terme outil n'est pas bon, mais il est un instrument de négociation ou de tension entre la France et l'Algérie. Ça va bien au-delà de son seul cas.
Antoine Assaf.
Il y a plusieurs choses. La première, je salue en tant qu'ancien otage, pardonnez-moi, pas de Liban, mon ami Boualem Sansal, que j'ai rencontré à tout de colloque, là où il est vraiment le condamné, il est innocent et je le salue dans sa résistance. La deuxième chose, il faut savoir que Boualem Sansal est un haut fonctionnaire de l'Algérie. C'est-à-dire, quand l'Algérie s'adresse à un écrivain de cette taille, son analyse de l'histoire de l'Algérie importe. Et pour eux, le fait d'avoir reconnu que le Maroc en lui a arraché une partie de ce qu'elle considère comme l'origine de son sultanat, son histoire, c'est comme si vous arrachez le Massif central à la France pour eux. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ça fait partie de l'histoire et la blessure pour le président, il voulait que cet intellectuel et ce haut fonctionnaire, comme vous formez des énarques pour servir la France, que ce haut fonctionnaire serve l'Algérie et l'aide et soit le pont avec la France. Et voici que tout se renverse. C'est-à-dire ce haut fonctionnaire qui aurait pu, comme écrivain reconnu, être le pont vers la France pour régler ce problème qui date. J'ai vu les cartes de nos généraux, nos colonels qui traçaient le Sahara, le problème. Le problème là, c'est que c'est une question entre la France et l'Algérie, mais elle les dépasse parce que le roi du Maroc a déjà résolu le problème. Et il ne l'a pas encore annoncé. Il y a eu une bouderie, bien sûr. Il a vu Macron qui lui dit « Nous reconnaissons le futur, l'avenir, etc. » Enfin, encore un baratinage et des sacs de survie avec le Maroc. Et voici que le Maroc annonce les contacts avec les États-Unis. À savoir, le président actuel Trump reconnaîtrait absolument Sahara pour le Maroc. Si le Maroc, toujours le deal avec donnant toujours avec Trump, normalise complètement avec l'État d'Israël. Il veut intégrer en plus de l'Arabie Saoudite et des États, des Émirats et même le Liban est appelé à normaliser, à ce que le Maroc justement normalise.
Donc ça s'est fait dans le dos de la France.
Israël.
Ça s'est fait dans le dos de la France.
Si,
ou sans la France.
C'est là. Il n'y a pas de diplomatie secrète avec Donald Trump puisque vous avez bien vu comment il a humilié Zelensky devant tout le monde. Alors qu'en JP Vance du Midi, bon, on dit aux journalistes de quitter. C'est pourquoi je disais, un travail de journaliste, je le respecte, c'est un travail en lui-même que je ne pratique pas. Je pratique celui de réfléchir en plus ou moins sur les questions de loin. Ces gens sont là et on leur dit de rester. Eh bien, tous les journalistes ont compris que Trump allait casser la diplomatie secrète. Il aurait pu tout dire à ce pauvre Zelensky en dehors des ondes. Moi, j'ai pas approuvé cette attitude, mais c'est l'homme,
En tout cas, c'est Donald Trump qui a rebattu les cartes. C'est-à-dire que Boualem Sansal, aujourd'hui, n'a pas d'autre perspective. Qu'est-ce qu'il a comme perspective, d'ailleurs ?
Alors, il y a eu une proposition que je trouve très sage, mais il a une grande expérience politique, c'est Charles Millon. Il l'a proposé l'autre jour sur une des chaînes, 24, ou je ne sais pas, je les regarde tous sans juger. Il a dit qu'il faut nommer Boualem Sansal comme diplomate, comme ambassadeur à l'UNESCO, et il aura à ce moment-là une sorte d'immunité, et la France pourra justement le faire sortir. A-t-il la double nationalité? Je pose ça à Sophie Dravinel, si elle le sait. Moi, je ne sais pas s'il a la double nationalité. Mais...
Je pense que les pays n'ont pas la même considération, la France et l'Algérie, de la double nationalité. Mais de fait, évidemment qu'il faut sortir de cet engrenage, évidemment qu'il faut libérer Boualem Sansal au plus vite, au vu de sa santé. Il a des vrais soucis de santé. Je crois qu'il est soigné là-bas, mais évidemment pas dans les conditions dans lesquelles il serait soigné s'il était en dehors de ses geôles algériennes. Ça, c'est un présupposé. Ensuite, je pense qu'il faut participer à la désescalade géopolitique, diplomatique entre la France et l'Algérie, qui va, comme vous l'avez souligné Antoine Assaf, bien au-delà des seules relations entre la France et l'Algérie, puisqu'évidemment le dossier des relations entre voisins là-bas est un dossier extrêmement ancien. Mais on voit à quel point... Mais j'allais dire, s'il faut tirer un bénéfice de ce genre de situation, c'est de reparler des dossiers qui empoisonnent les relations entre la France et l'Algérie. Et en particulier, évidemment, ce dossier qui est celui de la façon avec laquelle la France est entrée en Algérie et des massacres qui ont été commis là-bas. On ne va pas revenir sur des polémiques récentes, mais je pense que l'histoire a toujours... doit toujours être, les livres d'histoire doivent toujours être réouverts et réouverts avec clarté, d'un côté comme de l'autre. Il y a eu des massacres d'un côté comme de l'autre. Évidemment, ça n'est pas simple et je pense, s'il y a un bénéfice à tirer, que c'est, ça peut participer à la clarification, parce qu'il le faut, des relations entre la France et l'Algérie.
Juste une dernière question et une réponse rapide, Sophie Dravinel. Vous sentez qu'il y a une vraie mobilisation pour Boualem Sansal ici ?
Non.
C'est ça la question que je me posais.
Parce qu'il est devenu un objet politique. Il a été transformé aussi comme un objet politique.
Justement, ça pourrait bouger dans les milieux intellectuels, journalistiques. C'est pas tant que ça.
Eh bien, moi, je pense que c'est un peu dangereux de faire d'un otage à un objet politique parce que ça peut lui porter préjudice, même si les comités de soutien, en tout cas à Boualem Sansal, approuvent la façon.
Mais il est déjà condamné à 10 ans. Et il faut absolument faire bouger. Retailleau doit intervenir. Il faut réviser les accords.
Il ne fait que ça.
Et les accords de 68 doivent être révisés, signés par une France victorieuse. Ne veut pas oublier ça. Et non respectés par l'Algérie.
C'est à Emmanuel Macron qu'appartient le dernier mot.
Merci à tous les deux. Sophie Dravinel, journaliste à Public Sénat. Antoine Assaf, écrivain et philosophe. Excellente matinée. Je vous retrouve naturellement lundi pour un prochain débat du jour à partir de 9h.